Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Quand je commence à bafouiller dès le début de l'émission, c'est que ça promet généralement. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment. Et attention chérie, ça va trancher. Aujourd'hui, on parle de Sharp Objects, mini-série créée par Martin Noxon, réalisée par Jean-Marc Vallée, avec Amy Adams et Patricia Clarkson, une série qui débarque le 9 juillet sur OCS, décidément. OSS, je pense que c'est moi aujourd'hui, OSS.
C'est ça.
Une série taglinée, on ne peut oublier son passé. Ça tombe bien, les débatteurs du jour en sont la preuve. Elle n'oublie jamais rien, Mélanie Wanga, bonjour.
Bonjour.
Et on ne peut pas lui oublier qu'il kiffe la soca dance.
Salut Charline.
Et avant de s'attarder sur ces Sharp Objects, l'info du jour. Et un reboot. Daria, icône de toute une génération d'asociales sarcastiques, en Doc Martens, va avoir droit à une seconde vie. La série animée qui a fait les beaux jours de MTV devrait renaître sous le titre Daria et Jodie. Souvenez-vous, Jodie, c'était la brillante déléguée militante de la série. Tremble donc Laundel, est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
Ce qui est amusant, c'est de voir donc toute cette vague de remake, de reboot. On parle aussi d'un retour du Nounou d'Enfer. Donc on sent qu'on est vraiment totalement...
Tu n'es quand même pas en train de comparer Daria à une
Alors,
Nounou d'Enfer.
Alors, ça fait partie de mon adolescence et Daria et une Nounou d'Enfer. Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'on est vraiment dans un degré zéro de créativité où... Ça veut dire aussi autre chose que les séries d'il y a quelques années étaient peut-être un peu en avance. Et Daria correspond parfaitement à l'époque. Le cynisme de Daria, son personnage, à mon avis, correspond beaucoup mieux aujourd'hui à ce que peut être une certaine vision de la société. Donc je pense que ce retour-là peut être bénéfique par rapport à l'époque. Après, est-ce que ça va pas faire un peu redondant? Des Daria, il y en a partout, en fait.
Ouais. Mélanie.
Non, là on est vraiment dans une entreprise de raclage de fond de tiroir pour moi. Enfin, c'est vraiment, on se dit ah là là.
Comment parler de Daria?
Moi aussi j'adore ouais. Daria évidemment. Le problème c'est que MTV, on sait que les clips ça marche plus, donc ils sont un peu en galère. Ils essayent de courir après la nouvelle génération, mais enfin moi je suis assez.
Ils ont plus assez de mineurs enceintes, c'est ça aussi pour leurs.
Oui.
Il y a ça aussi. De Sweet 16, c'est ça. Mais est-ce que si on regarde les épisodes de Daria aujourd'hui, en fait,
ça a très bien vieilli.
Ça a très bien vieilli.
Ça a pas pris une ride. Hein.
Est-ce que c'est justement ça?
Est-ce que c'est nécessaire?
Ouais,
non,
c'est ça,
bien sûr.
C'est pas nécessaire en fait. Rediffusez-les, les gars, en fait.
Je crois que Hulu aux États-Unis a du coup récupéré l'intégralité.
Oui.
Tu dis quoi? Tu dis Hulu?
Moi, je dis Hulu.
Ouais, mais parce que t'es français. Nous, on est un peu les Americans. A récupéré l'intégralité du catalogue et des vieux épisodes.
Et puis, il faut savoir que les DVD ne sont pas trouvables en France de Daria. Donc c'est aussi
moi, le seul truc qui m'a inquiété, c'est l'absence dans le pitch de Jane, la meilleure copine.
Oui, remplacée du coup par.
Par Jodie, mais qu'on aime bien Jodie.
Oui, oui, oui.
Qui est quand même super.
Et comment elle s'appelait la sœur débile, déjà?
Queenie,
on l'adore.
Non, elle sera là.
On l'embrasse. Queenie.
Mais alors, j'ai vu un tweet qui disait un truc très vrai, quand même, qui disait que Daria aurait détesté les reboots. Elle avait été à notre époque.
C'est
donc,
vrai.
Bon. Voilà.
Bon, on attend de voir en fait, en quelque sorte.
À suivre.
Comme d'habitude, quoi, en fait.
Oui,
on peut dire affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre et en attendant mystère.
What if after you die, part of you goes to heaven, part of you stays here, just to see how things turn out?
Wind Gap. There was a murder there. Another one's missing now. Get me a story.
Wingap, donc, c'est le nom de la petite ville du Missouri que Camille Pricker, journaliste, a quitté pour oublier le traumatisme qu'elle y a vécu enfant. Elle y retourne pour tenter de résoudre... Est-ce que j'ai le droit de le dire ?
Oui.
Pour tenter de résoudre une affaire criminelle. Oui, parce qu'on va essayer de donner le moins de spoilers possible. Mais ceci étant, du coup, ça va mal commencer. Ce titre, Sharp Objects, explication avant de débuter.
Explication, eh bien, parce que notre Camille, parce que donc elle s'appelle Camille, mais en anglais ça fait Camille.
Le mec dit Ulu, mais dit Camille.
Camille. Non, c'est parce que, tout simplement parce que j'ai du mal à comprendre comment il l'appelait.
Ah, je t'aime.
Camille. Je t'aime. Ils sont malades.
Camille. Pourquoi s'appelle-t-elle Camille?
C'est Camille Wally, c'est fou. Et en fait, donc cette jeune femme qui revient donc dans sa ville natale a un passe-temps, en tout cas une déviance personnelle. Elle se scarifie, d'où le sharp object du sujet. Et ça va être en lien, évidemment, avec l'intrigue, c'est que la douleur qu'elle s'inflige sur son corps est en fait en lien avec une douleur beaucoup plus profonde qu'elle va exorciser au fil des épisodes, évidemment.
Une douleur que vous avez le droit d'expliquer ou... on peut quand même en parler, hein. C'est un trauma quand même qu'elle a vécu dans son enfance, et je pense au début de la série qui est quand même assez bien expliqué, qu'elle est pas, elle vit pas dans sa ville natale, alors que tous les gens en fait avec qui elle a grandi sont restés là-bas, parce que c'est un peu des rednecks, quoi. mais elle s'en est écartée justement dû à ce trauma qui l'a amenée maintenant à s'automutiler. Ouais.
Alors c'est l'adaptation d'un roman de Gillian Flynn à qui on doit Gone Girl, donc on sait déjà dans quel registre on met les pieds quand même, si on n'a pas le droit d'être trop
registre femme en colère et souffrante,
femme vénère. Je suis voilà.
Mais polar.
Faux polar en fait, c'est-à-dire comme Gone Girl, c'est-à-dire
j'ai l'impression qu'on fait des mystères
on en fait des mystères mais on fait des chuchotages,
non, Inception non, de mystère.
Quand je dis faux polar, c'est-à-dire que c'est plutôt un polar psychologique, mm-hmm. plus qu'un, en fait on s'en fout assez vite de savoir qui a fait quoi, puisqu'il est question donc d'une disparition de jeune fille, et petit à petit l'intrigue va se resserrer autour d'elle et autour de ce qu'elle a vécu. Et évidemment, comme souvent dans les polars psychologiques, c'est en révélant ce qu'elle a de caché à l'intérieur que ça va révéler l'intrigue principale, ce qui est un peu à mon avis la limite de l'histoire.
Mais je me trompe ou je vous sens un peu sur la réserve tous les deux là?
On n'a pas envie de se faire attraper par HBO.
C'est ça. Il y a quelqu'un qui nous observe. Non, mais effectivement, on nous a expressément demandé HBO,
pas de spoil,
non pas sur l'intrigue en général. Et à chaque épisode, il y a des révélations.
Ouais. D'accord, mais enfin, on a quand même tous vu et entendu une bande-annonce dans laquelle on nous explique qu'elle retourne dans sa ville. Il y a des enfants disparus.
C'est le pitch de Dolmen. Elle retourne dans sa ville pour mener l'enquête.
Alors, quelle est donc la différence avec Dolmen, Mélanie? Puisqu'on aborde le sujet.
Tu viens de ressortir Dolmen avec Ingrid Chauvin, c'est ça?
C'est un podcast sur les séries, non?
C'est bien.
tu disais quel est
Dolmen,
le pitch?
Quelle est la différence avec Dolmen? Puisqu'on doit faire la
pas d'Ingrid Chauvin. Premier mauvais point de la série.
Ingrid Chauvin et sa poitrine ne sont pas là. Non, pour moi, vraiment, le gros point fort, c'est la performance d'Amy Adams. Hein. On en parlait avant, c'est que vraiment, ils l'ont casté, ils se sont dit, allez, on va faire bingo aux Emmy Awards. Quoi. Ah oui. C'est tout de suite. Moi, franchement, au milieu du premier épisode, tu dis, c'est bon, la meuf, elle va obliger à rafler meilleure actrice. Quoi.
C'est même incroyable. Un peu trop. C'est-à-dire que des premiers plans de la série, elle est alcoolique dans sa baignoire, ouais. Elle titube, elle a le regard vitreux, en même temps, elle met
sa vodka dans sa bouteille d'évian.
Voilà, c'est ça. Toi, tu vas avoir un prix, ma chérie, tu es partie pour ça. C'est même vraiment, c'est un écrin pour elle, c'est construit quasiment autour d'elle. Ouais. Il y a un truc qui est très beau, c'est qu'il y a vraiment une structure un peu en flashback, mais pas des flashbacks explicatifs. Elle a des flashs, c'est que tout d'un coup, le montage est vraiment très beau pour ça. Elle voit quelque chose et tout d'un coup on repart en arrière parce que ça lui fait penser à quelque chose. Il y a une jeune actrice qui joue elle jeune. C'est troublant. C'est vraiment, on a l'impression que c'est
Amy Adams. Qui était dans Hit d'ailleurs, cette actrice.
Qui était dans Hit, ouais. Et qui est vraiment, on a l'impression que c'est Amy Adams jeune. Et ça produit quelque chose d'assez. C'est vraiment, on parlait de Gillian Flynn, c'est vraiment un récit féminin, mais au sens fort du terme. C'est-à-dire que ça s'intéresse, ça ne parle quasiment que de femmes en fait. Sharp Object, ça ne parle quasiment que d'une relation entre une femme, sa mère qu'elle aime pas beaucoup, avec laquelle elle a une relation.
Patricia Clarkson.
Et puis la nouvelle fille de sa mère.
Oui.
De sa mère. Et donc c'est une sorte de triangle, féminin, de en gros famille je vouais quoi. C'est à peu près ça le sujet.
D'ailleurs, ce procédé là de flashback. Dont tu parles, ça me fait penser quand même que c'est un truc assez connu du réalisateur Jean-Marc Vallée. Il a déjà utilisé ça dans Big Little Lies et dans Wise aussi.
Justement, vous parliez de la prestation d'Amy Adams qui crie le « Je veux mes prix, je veux mes prix ». Parce que là, relancer une mini-série avec Jean-Marc Vallée à la tête, avec une esthétique qui est très particulière, a priori, si je me dis « Je ne regarde pas cette série, j'ai rien vu », je me dis « Les fils sont quand même un peu visibles, non ?»
C'est effectivement...
Entre Gillian Flynn... quand même Gone Girl. Enfin, on voit la couture, quoi. C'est un peu, on sait où on veut aller. C'est aux Emmy, aux Golden Globes.
Bien sûr, mais c'est surtout quasiment le même procédé que Big Little Lies, qui était lui aussi adapté d'un roman. Le casting de Big Little Lies était quand même un peu plus mastoc et un peu plus vénère. On se souvient qu'il y avait quand même quasiment toutes les meilleures actrices d'Hollywood. Là, il y a Patricia Clarkson qui est très bien, et puis Amy Adams. C'est vraiment un véhicule que pour elle, même si
moi je trouve pas que les autres acteurs. Il y a quand même le mec de Revenge. Hein, je ressors les trucs du grenier.
Tant qu'il n'y a pas une Ingrid Chauvin. Mais il y a un truc, un peu surfabriqué. Voilà, si moi je devais être l'avocat du diable, ça commence. Vous avez des longs travelling sur la ville. On nous montre bien qu'il y a un auteur derrière, qu'il y a un metteur en scène. On n'est pas dans de la série, on est dans la mini-série. Ouais. C'est un film déguisé, en gros.
C'est 8 fois 60, hein, c'est ça.
Et il y a un truc vraiment qui tient sur ça, sur l'auteur, sur la mise en scène. C'est très très lent, on l'a pas dit, mais c'est extrêmement lent. Il ne se passe quasiment rien. Alors ça, il faut vraiment.
Ouais, c'est une étude de personnage et d'une ville, en fait. C'est vraiment ce côté-là, ce côté observation. Et puis, comme on disait avec les flashbacks, du coup, on voit la ville 20 ans avant, qu'est-ce que c'était. Enfin, c'est. Et il y a tous ces plans où elle est dans sa voiture, où elle conduit et où on la suit. Enfin, voilà, c'est vraiment.
C'est vraiment la mise en scène, de l'ambiance. On sent vraiment qu'il y a quelqu'un derrière la caméra et qu'on veut nous dire qu'il y a quelqu'un derrière la caméra.
Regardez,
plus encore. Ouais, plus encore que dans Big Little Lies, qui, à mon avis, était plus traversé par la question du soap et qui, à mon avis, était plus facile d'accès et plus agréable à regarder parce qu'il y avait cette structure de qui a fait le coup, qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée, tout ça. Là, je pense qu'il faut attendre bien 2-3 épisodes avant vraiment de comprendre où ça va et ce que ça veut raconter. Il y a ces fameuses histoires de disparition de jeunes filles, mais qui sont vraiment un prétexte. Il y a 15% d'épisodes qui parlent vraiment de ça, ou sinon elle passe son temps à se balader, à boire des coups, à discuter, à s'engueuler avec sa mère.
Et même la mise en scène de la famille, en fait, de la maison, parce qu'elle revient quand même chez sa mère, qui hyper froidement et lui dit la maison est pas prête pour accueillir des invités, quoi. Genre tu revois ta mère après après des années, on dit ça.
Et la mère est monstrueuse.
La mère est incroyable, et il y a toute cette maison qui est en fait un manoir qui descend d'une famille qui s'est enrichie dans les abattoirs, visiblement. Il y a tout ce côté là qui, moi en tout cas, m'a intéressé, le côté redneck et le côté
On est au cœur de ce qu'on appelle le Southern Gothic, en fait, en termes d'esthétique, c'est-à-dire l'Amérique rurale. Alors là, c'est un Southern Gothic un peu ripolliné quand même, hein. C'est-à-dire c'est le Southern Gothic des grands propriétaires, des grandes maisons. Patricia Clarkson, il y a des moments où moi j'imaginais que la série allait aller vers quelque chose autour notamment des traces de la guerre de sécession, des grandes plantations, des choses comme ça.
Et là, il le faut un petit peu.
Voilà. Mais il y a cette idée comme ça d'une grande famille. Ça fait un peu penser à Tennessee Williams par moment sur ce côté. On a l'impression qu'il fait toujours très très chaud dans cet endroit. La maison est vraiment géniale. Ça, c'est très bien filmé. La maison est vraiment géniale.
Avec la maison poupée qui est la réplique. Ouais. Enfin, il y a tout un truc sur ça.
Mais ça tient, encore une fois, à des tout petits indices. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'accrocher. On n'est pas dans la Casa des Papels, hein. C'est pas le truc qui va vous accrocher, vous allez binger comme des dingos.
Ah, le point Casa des Papels.
Point Bella Ciao, bisous Maître Gims. Ouais. Mais il y a vraiment, c'est un truc, c'est de la série auteur, c'est de la série, ça dure une heure à chaque fois. On se fait globalement un peu chier.
Ah bon, même sur la fin, à la fin de chaque épisode, j'avais quand même envie de savoir la suite.
C'est
quoi.
Ça fonctionne toujours de la même manière, c'est qu'il se passe pas grand chose.
Et puis c'était un choc de fin d'épisode.
À la fin d'épisode, il y a toujours une révélation, une image de fin. D'ailleurs, c'est très cut. À chaque fois, il y a ce jeu-là. C'est-à-dire qu'au moment où enfin il se passe un truc, cut, et on passe au suivant. Ouais. Donc bon.
Après, on adhère ou on adhère pas au rythme et à l'ambiance, quoi. C'est clair que c'est pas fait. Enfin, je pense que ça plaît pas à tout le monde, mais moi,
ça binge pas, quoi.
Il y a vraiment ce côté, comme tu disais, le côté guerre de sécession, les traces racistes et tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était vraiment quand même présent. Alors, je ne spoil pas, mais notamment, il y a un épisode qui est quand même consacré à une fête, à un général qui se battait dans l'armée du Sud pour garder les esclaves.
Mais c'est en toile de fond. Jamais la série ne va affronter un sujet, même si on comprend assez vite.
Noirs sont tous quand même des domestiques.
Mais oui, Mais en gros, c'est subtil. Et la subtilité, je ne suis pas sûr que ce soit toujours très agréable et très excitant à regarder. C'est-à-dire qu'on sent que c'est de la série auteur, que c'est de la série.
Ok, je vais poser la question autrement. C'est subtil ou c'est chichiteux, en fait? Moi, il va falloir trancher.
C'est très bien posé comme question, et on sent que c'est pour ça que c'est toi l'animatrice. C'est vraiment. C'est chichiteux chiant un peu.
On va être en opposition.
C'est ça que je cherche. C'est ça qui me faut. Qu'on me mette un couteau entre les deux.
Moi, pour être. En fait, ça m'agace un peu ce type de mini-série où, encore une fois, ça clignote Emmy, ça clignote trop intention à récompense. On a le fameux film à Oscar, là, on a la série à récompense.
Mais tu vois, la série Olive Kittredge, qui était aussi une série HBO, où tout de suite, dès les premières secondes, tu savais qu'ils cherchaient des récompenses. Là, pour le coup, je me suis fait chier, tu vois.
Alors que moi, je trouvais ça plus, beaucoup plus radical. Et là, je trouve ça pas assez radical pour que ce soit, ouais. pour que je me dise, ah ouais, c'est quand même brut. Là, il y a un truc. En fait, c'est ce vers quoi ça va, en fait. C'est-à-dire que ça se tient sur un mystère, et il faut que le mystère soit très fort. Et ce vers quoi, de ce qu'on a vu, la résolution, et je la trouve pas.
Voilà. Bah après, c'est ça, en fait. Le mystère, au final, c'est un truc qui n'a pas l'importance qu'on pense. C'est pas une enquête policière, le truc, c'est pas les experts, quoi. C'est vraiment ça, je pense qu'on est là pour suivre ce personnage et suivre en quelque sorte sa rédemption. Après, moi, clairement, comme je disais, la performance d'Amy Adams, ça m'a scotché, quoi. Et ce portrait de femme qui souffre, mais qui en même temps, d'ailleurs, c'est un peu dit qu'il y a quelques années, donc quand elle était ado, elle était quand même populaire. Donc il y a quand même des moments où elle joue un peu à ça.
C'est un film sur la fracture, mais en même temps, il y a des moments dans la série, t'as envie de dire, tu vas la cracher, ta Valda, quoi. Dis-nous ce qui s'est passé, raconte-nous pourquoi tu te fais du mal, qu'est-ce qui se passe, qui sont... Donc, c'est des séries avec des non-dits. Et les non-dits, ça peut être un peu chiant.
Alors, c'est pareil, un pied dans le plat. Amy Adams, c'est une comédienne chez qui j'ai du mal à avoir des aspérités. Je la trouve toujours un peu lisse, un peu... Ouais. Est-ce que du coup, c'est le rôle adéquat?
Là, elle n'est pas coiffée, donc globalement, c'est parti pour l'aspérité.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle c'est quand même une actrice qui a joué chez Disney le rôle de la princesse Nian.
Il était une fois chef-d'œuvre.
Ouais, j'adore ce film, mais voilà, c'était le rôle qui l'a vraiment fait connaître. Donc, on s'attend toujours, et puis même les rôles qu'elle a eu après, c'était toujours des rôles de gentille fille qui essayait d'arrondir les angles et tout. Et là, pour le coup, moi, j'ai vraiment aimé ce rôle-là parce que elle est dans un truc d'autodestruction, mais en même temps, elle a du talent et en même temps, bon, son boss. On ne sait pas trop pourquoi il l'a envoyé. Il y a un côté un peu paternaliste.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a entendu dans la bande-annonce, c'est son boss du journal qui l'envoie dans cette ville.
Qui lui dit retourne dans ta ville natale pour faire un portrait de la ville. Pas pour résoudre l'enquête, pour montrer.
Parce qu'elle vient de là, donc elle aura accès plus facilement à ça.
C'est Joël Dicker, en fait. C'est le dernier Joël Dicker.
Oh merde, c'est l'enfer. Non, c'est
bon, Joël Dicker, Dolmen, on a fait le. Et Revenge. Je crois qu'on est pas mal.
Non, mais j'ai l'impression qu'elle est. C'est une actrice assez intéressante, moi, je trouve, notamment chez Tom Ford dans Nocturnal Animal. Je la trouvais assez géniale parce qu'elle a un côté papier glacé qui peut se froisser assez vite. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on part, elle est vraiment défaite. Les premiers plans, on se dit, oh, cette dame ne va pas très très bien. Et la série joue comme ça petit à petit vers un retour comme ça en puissance du personnage. Ça manque peut-être un peu de... Moi, je trouve que, notamment, la question des scarifications dans la série, qui est vraiment le sujet, hein, c'est adapté du roman de Gillian Flynn qui s'appelait sur ma peau. Donc, on ne peut pas faire plus clair que ça en titre français. La série comprend même un peu des pincettes, c'est-à-dire qu'on voit des choses, mais c'est pas le film de Marina. Je sais pas si vous souvenez celui de Marina Devane qui s'appelait Dans ma peau.
Bah, c'est-à-dire sur l'échelle d'Isabelle Huppert, non.
Eh ben, on est sur une petite échelle d'Isabelle Huppert. On est sur une échelle de picotti-picota, quoi. Et c'est pas. Et je me demande si ça tient pas aussi parce qu'elle, elle a pas voulu aller assez loin. Tu n'es pas d'accord avec moi, Mélanie?
Moi, je trouve que c'est quand même montré, mais effectivement, c'est pas à tous les épisodes où il y a des grosses scènes de scarification, ce qu'aurait pu faire du bio, parce qu'ils ont pas peur de ça, habituellement, du gore et tout. Après, je sais pas, parce que voilà, c'est difficile de traiter ces sujets-là sans tomber dans l'exploitation, en fait, sans tomber dans ouh là là, regardez comment elle fait. D'ailleurs, on se souvient, il y avait eu des polémiques avec 13 Reasons Why, comment on montre le suicide, comment on montre les gens qui souffrent à la télé, tu vois, c'est important, c'est intéressant comme question.
Et pourtant, c'est le sujet.
Ouais, c'est
et
le
donc,
sujet.
Il y a une espèce d'entre-deux comme ça où, en fait, on nous montre beaucoup qu'elle boit, elle boit beaucoup d'alcool.
Elle prend de la drogue.
Elle prend de la drogue, tout ça. Voilà. Et en même temps, on sent qu'il y a un palier qu'ils n'osent pas franchir, ce qui donne à la série un truc un peu étrange. Mais ça fait un objet, c'est pas rien, quoi. C'est un objet juste bizarroïde à regarder. Et pas du tout, moi je trouve la série pas du tout séduisante ni sexy. Ce qui est quand même un risque énorme, je trouve, pour HBO, pour la série de l'été. C'est pas du tout sexy, quoi.
Oh, bah, je sais pas. Moi, je pense que ça va plaire aux gens qui ont envie de regarder des séries type Big Little Lies pour l'été. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas la plage. Là, à la place, c'est une ville un peu pourrave.
Et on le disait en début d'émission, c'est une série produite par Marty Noxon dont on a parlé il y a peu de temps, parce qu'elle produit aussi Dietland. Et c'est à elle qu'on devait aussi Nurse Jackie. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une patte dedans, ou alors
raideur,
là on est vraiment passé. Voilà.
Une raideur dans le.
Je savais que tu allais dire ça.
Je sais pas pourquoi.
Non, mais je trouve qu'il y a un truc sans compromis et en même temps, des portraits de femmes évidemment, mais le portrait de femme c'est tellement un truc tarte à la crème, ça veut rien dire un portrait de femme en fait. C'est comme des portraits d'hommes, c'est la même chose.
Sauf que c'est moins souvent et souvent c'est moins bien traité. Quoi.
Évidemment, mais.
Alors que c'est beaucoup plus joli.
Mais c'est pas un genre, un portrait de femme. Enfin, je veux dire, c'est ça que je trouve que c'est aujourd'hui devenu un argument marketing, on va faire un portrait de femme. Non, c'est un personnage féminin fort, central. Je trouve que par exemple, le personnage de Chris Messina, le flic, Il est pas très intéressant, il est pas très bien traité.
Ah, moi, je t'avoue que quand j'ai vu qu'il était dedans, je me suis dit, ah, quand est-ce qu'ils vont coucher ensemble? J'adore ce mec, je veux le voir torse nu. Mais bon, c'est vrai que sinon, à part ça, c'était pas non plus.
Mais on sent qu'ils surfent sur un truc. Voilà, ils essayent d'avoir enfin une série avec un personnage féminin complexe. Il est là. Mais j'ai pas l'impression que la série soit aussi complexe qu'elle voudrait nous le faire croire. En tout cas, de ce qu'on a vu jusque-là, moi j'étais un peu.
Voilà, bah, c'est le risque d'adapter l'œuvre de Gillian Flynn. Ouais, parce qu'en vrai, elle a quoi, 3 ou 4 bouquins, je crois. Ouais. Et Gone Girl étant le plus abouti, celui d'ailleurs qui a été adapté par le plus grand réalisateur, enfin, David Fincher. Mais...
Qui l'a quasiment remodelé.
Oh, ouais, voilà. Plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu un film sur Dark Places qui était son autre roman, qui était avec Charlize Theron.
Réalisé par Gilles Paquet-Brenner.
Oh là là, qui était pas très bien quand même.
Je crois qu'on dit Giles Paquet-Brenner.
Paquet-Brenner.
Si on dit Ulu ou Lou, c'est pas trop. Mais... En tout cas, tous les deux, je vous tire mon chapeau car vous avez réussi cette mission quasi impossible de parler de Sharp Objects sans en dévoiler trop, mais en racontant quand même beaucoup.
On n'a pas dit que l'assassin,
c'était... Non, mais en revanche, je vais vous demander... Oh, tu voulais ajouter quelque chose?
Je voulais juste ajouter un truc par rapport à Martin Noxon qui est intéressant, c'est que Martin Noxon, du coup, a bossé sur Buffy contre les vampires, le point Buffy.
Ah.
Et elle a bossé notamment beaucoup sur la 6e saison et la 5e saison, où Amy Adams joue un petit rôle.
J'en ai aucun souvenir.
C'est la cousine de Tara, quand la famille de Tara revient.
Bien sûr, tout à fait.
Chercher.
Bien vu.
Donc voilà.
Point Buffy,
voilà, accompli.
Et si je vous demande une recommandation, et je commence par toi, Renan, puisque je vois que tu me regardes bizarrement.
C'est l'antithèse. Parce que là, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une série féminine, dark, violente, moi je vous propose la série féminine joyeuse.
Dolmen.
Quand est-ce que ça revient, la saga de l'été sur TF1 pas. Faut faire quelque chose, les gars, là.
Et Ingrid... si j'y vois au chapitre, non, merci.
Donc, la saison 2 qui vient de commencer de The Bold Type, on avait adoré la saison 1. Vraiment, c'est... moi, c'est sur le papier tout ce que je peux détester. Hein. C'est-à-dire, c'est le milieu du journalisme raconté par des gens qui n'ont jamais été journalistes, à mon avis. C'est-à-dire, c'est la rédactrice en chef qui est tellement sympa et qui te donne des conseils, qui te fait un chocolat chaud et des câlins. J'embrasse mes rédacteurs en chef, mais ils n'ont jamais fait ça avec
tu
moi.
Tu vas être viré de tes journaux.
Et c'est vraiment une série feel good, mais au sens le plus positif du terme. Le feel good, c'est un mot qu'on emploie partout comme une espèce de tarte à la crème. Là, c'est du feel good, c'est-à-dire c'est la question du positivisme. Comment ces jeunes femmes, en saison 1, donc la saison est disponible sur Amazon, comment ces jeunes femmes, en fait, qui sont des produits de leur époque, sont confrontées à des questions aussi variées que faut-il coucher avec quelqu'un de son bureau, ou par exemple la question des réfugiés. Vous voyez, c'est très large, hein, comme spectre.
Effectivement.
Et il
oui.
y a un positivisme dans la série que je trouve absolument génial, une bienveillance totale. C'est la série qui vous dit allez, ça va aller, on va avancer. C'est un peu l'antithèse de Sharp Objects. Hein. Sharp Objects, on vous dit ça va très très mal aller et ta famille est un monstre. Et là, on te dit tes amis, c'est ta nouvelle famille. The Bold Type.
Mélanie,
je vais te suivre dans la joie et la bonne humeur et je vais vous parler de Younger, qui est une série qui se passe, qui est aussi une série très joyeuse et très colorée, qui se passe à New York, qui raconte l'histoire de Liza Miller. Attention, moi aussi, je prends l'accent.
Ouais, bien sûr. Attends, y aller, hein, là,
on est full VO, quoi.
Donc, Liza, en fait, qui est une maman d'une quarantaine d'années, qui cherche, en fait, à retourner au travail après avoir élevé sa fille pendant quasiment 20 ans. Et on lui dit, mais non, c'est trop vieille, c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Donc, en fait, elle se dit, je vais me faire passer pour une femme plus jeune. Donc, je vais me faire croire que j'ai 26 ans. Et elle décroche un boulot dans une maison d'édition qui s'appelle Empirical. Et donc, tout le truc, c'est est-ce qu'elle va réussir à garder son secret et en même temps pouvoir s'épanouir dans ce taf-là et en même temps vivre la vie new-yorkaise. Ouais, c'est génial.
C'est très
mignon, mais en même temps, c'est intelligent. Hein. C'est par Darren Stark, le créateur de Sex and the City.
Dans la même veine que The Bold Type, exactement. Le même type de série, comme ça, un peu très sucré, mais qui marche très bien.
Ouais, à binger, ouais.
Et alors, grâce à cette émission complètement bilingue,
bilingue,
avec des people complètement fluent, je dis thank you, Mélanie Mwanga. Thank you, Renan Crowe.
You're welcome, Charlene Brew.
Et du coup, on va la faire en français pour la suite. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.
François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback.
Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma.
Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art, avec Antoine Cyr et Antoine Julien et sur toutes les applications podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.